Donc je suis ici pour vous parler donc justement des relations qu'il peut y avoir entre différentes personnes qui travaillent sur un projet. Donc aussi bien des web designers que des développeurs, que des ergonomes, que le chef de projet, que les consultants, qui sont en relation en général avec un client. Comment faire en sorte que toutes ces personnes travaillent ensemble du mieux possible pour aboutir et livrer dans les temps un site internet ou un produit terminé demandé. Donc je vais me présenter donc rapidement. Donc je suis donc Rémi Birambeau, j'ai 36 ans, j'ai travaillé en entreprise donc en SS2I, notamment pour des grands comptes type SFR et Voyage SNCF, où donc j'ai fait beaucoup de gestion de projet. Et puis depuis 3 ans, je me suis orienté vers le monde associatif. Donc je réalise, en tant que chef de projet et consultant, des sites pour les associations, notamment donc la Fondation Autisme Agir et Vaincre, la chaîne de l'Espoir, le Centre français de protection de l'enfance. Et puis donc j'ai un petit peu travaillé pour le Téléthon, un peu pour la Croix-Rouge française. Et aujourd'hui, donc là je travaille activement sur un projet phare qui s'appelle jaxed.com, qui est un guide internet gratuit sur les lieux accessibles et sympathiques. Donc ce guide collaboratif est donc destiné avant tout aux personnes à mobilité réduite on trouve ne sortent pas assez, ne vont pas assez dans les bars, au cinéma, parce qu'elles ne savent pas si c'est accessible ou pas, et donc elles ont peur de se planter, donc elles ne sortent pas. Donc c'est un petit peu la raison de ce site. C'est un site qui est d'abord destiné donc au handicap moteur. Ensuite, je travaille également juste pour rapidement faire le point sur une autre association qui s'appelle l'Association pour le développement du management associatif, qui fait du conseil, des formations, des séminaires pour associations pour les aider à mieux gérer leur projet en général. Et moi, je m'occupe plus particulièrement des projets internet. Là, quand j'ai employé le mot acteur, j'entends à la fois donc le client qui est un des acteurs évidemment de la création de son site, et différents prestataires, donc notamment le chef de projet, l'ingénieur, le web designer, l'ergonome, le rédacteur, puis d'autres intervenants, le cinéaste, enfin le caméraman et autres intervenants possibles. Donc aujourd'hui, on est un petit peu, enfin, on est en phase, on va dire, en construction. D'un côté, donc, il y a Internet qui bouge avec les blogs, le web 2.0, les questions de coûts qui se posent au niveau de d'Internet, les évolutions, et notamment donc dans le domaine du handicap, les programmes d'accessibilité qui permettent d'accéder au contenu. Et puis, d'un autre côté, il y a le secteur associatif qui, lui, est en pleine effervescence, notamment depuis le tsunami. Les associations ont commencé à comprendre l'intérêt d'Internet pour elles, notamment comme moyen de collecte de dons, mais également comme moyen de recrutement de bénévoles et comme moyen de communiquer partout en France à des coûts évidemment réduits. Donc le secteur associatif devient concurrentiel. À peu près toutes les associations ont un site Internet aujourd'hui, mais ne savent pas forcément comment le refaire et ce sur quoi communiquer. Donc dans un type associatif qui est souvent peu structuré, donc on a des demandes qui sont relativement peu claires. On sait qu'ils veulent tous beaucoup d'argent et pas dépenser, mais on a quand même des demandes qui ne sont pas claires. Internet n'est pas compris du tout. Enfin pour eux, évidemment, vous savez tous que une petite modification pour modifier un contenu peut être simple ou compliqué, mais eux ne le perçoivent pas. Et chacun y va de son avis. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Denis Chen. Évidemment, il y a les prestataires comme les clients ont tous leurs lunettes, voient le monde de leur façon, et donc faire communiquer des personnes avec des mondes différents s'avère très difficile. Donc dans l'association avec laquelle je travaille, ils ont appris différentes choses que je vais vous partager et qui j'espère vous seront utiles. Donc, pour fédérer, pour regrouper, pour faire en sorte que les personnes travaillent ensemble, on va voir qu'il faut au départ partager vision et mission de l'association. C'est-à-dire, il y a l'exemple de Saint-Exupéry. Donc, c'est un homme qui se promène, qui voit trois hommes taper sur une pierre. Il demande au premier, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, le premier dit, ben, je tape sur une pierre. Au second, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, je construis une cathédrale. Et au troisième, qu'est-ce que tu fais? Ben, je construis un monument à la gloire de Dieu. Alors, tout ça, c'est pour dire qu'ils font tous la même chose, disons, en réalité, mais que l'état d'esprit dans lequel ils sont est différent, évidemment. Et que par rapport à ça, enfin, le travail qu'on essaie de faire, c'est justement, ben, d'être au niveau de la construction, d'un monument à la gloire de Dieu. Dans le sens où, c'est quelque chose qui dépasse. C'est le projet devient plus important que les vues, les points de vue personnels, et peut, enfin, peut donc dans une certaine mesure être dépassé et faire en sorte qu'on arrive plus facilement à des compromis. Ensuite, par rapport à un client comme l'association, c'est être au clair sur les missions, visions, valeurs de l'association, et des associations qui savent, qui sont suffisamment aguerries et qui savent communiquer. Par exemple, enfin, moi j'aime beaucoup la vision du WWF, hein, Worldwide Fund, qui est pour une planète vivante, et sa mission, la mission du WWF, est d'enrayer puis d'inverser le processus de dégradation de la planète. Enfin, comme ça, on a un axe de communication clair, une sorte de contexte général développé, et à partir de ça, bah, il est facile, par rapport à cet idéal, de construire des projets quand on l'a en tête. Donc ensuite, c'est de savoir quelles sont les valeurs que l'on partage avec les acteurs du projet, donc clients comme prestataires. En fait, il y a deux exemples. Il y a l'exemple de Calipix. C'était une société de tirage numérique de photographie qui n'avait, enfin, qui justement était là pour faire, enfin, qui est là pour faire du profit. C'était une entreprise commerciale, mais qui n'a pas su bah, motiver les prestataires, même s'il y avait la question d'argent, n'a pas su motiver les prestataires à sa cause, et finalement on a été enfin, contraint de se battre sur des points de détail, sur des combo box, sur des virgules tout le temps, parce qu'on n'arrivait pas à avoir cette espèce d'idéal d'offrir un service aux clients. Et pas ce travail de communication. Et il y a celui de Jackset.com qui a été livré donc en temps et en heure vendredi dernier. Et qui à la fois fait appel à une association qui s'appelle donc Créactif, avec des web designers, qui a fait appel à des prestataires extérieurs, notamment une entreprise qui s'appelle Smile, qui a développé le site web en accessible avec comme objectif, cette entreprise s'est donné d'avoir un site accessible or sous Typo 3. Et puis donc bah, les retours utilisateurs qui, enfin, qui commencent en tout cas à être enfin, positifs et négatifs, mais qui sont en tout cas constructifs. Et là, c'est une des phrases de Margaret Mead que j'aime beaucoup, qui dit donc: Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Donc en fait, si on pense par exemple à Lénine et à la révolution bolchevique, c'est un petit groupe qui s'est développé et qui a fait la révolution. On peut penser aux créateurs du Téléthon qui étaient deux pères de famille qui ont développé le Téléthon. On peut penser à Stéphane Deschamps qui est en train de révolutionner l'accessibilité avec Paris Web. Donc voilà. Voilà. Et tout ça, bah, tout ça à notre, enfin, à un niveau associatif, à notre niveau de projet. Eh bien, c'est avoir cette conviction qu'on est en train de faire quelque chose d'utile, qui va être donc utile à la postérité, qui va être amené à se développer. Ensuite, définir un contenu de référence. Enfin, pour ce qui concerne notre expérience, on s'aperçoit que les associations ne comprennent pas qu'Internet est un média de publication. Donc, pour eux, c'est un petit peu d'actualité à droite, un petit peu de demande de dons en ligne à gauche. C'est quelques informations précises sur un de leurs projets, mais il n'y a pas de spécial, toutes ne font pas de stratégie de communication. Donc nous, on se retrouve avec des objets qui ne sont, enfin des une demande qui est finalement encore mal définie. On ne sait pas s'y retrouver puisque on a en général un ou deux chefs de projet en face de nous et les modifications arrivent au fur et à mesure que le site se développe. Donc d'une part, on a nous notre discussion en interne pour voir comment faire au mieux une page d'accueil en fonction des éléments qu'on a, mais ensuite, ben, les éléments qu'on a ne sont pas forcément définitifs puisqu'on les fait réagir par rapport au contenu qu'on a. Mais globalement, quand on a un contenu qui est déjà prêt, avec un objectif de communication et des cibles, un positionnement pour exister, parce qu'il y a plein d'autres associations qui existent, et tout à coup on s'aperçoit qu'on regarde les concurrents, enfin les associations concurrentes, bah, qu'elles communiquent sur la même chose et que nous on n'est pas beaucoup mieux, donc il faut faire différemment. Donc tout ça, tant que ça n'existe pas, ben on a eu des problèmes au niveau des délais de livraison et de l'entente de l'équipe. Donc une fois qu'on, donc l'objectif c'est bien de regrouper tout le contenu qui sera utile par rapport à l'objectif de la communication, donc c'est-à-dire savoir ne pas faire plaisir à tout le monde au sein de l'association. Je pense à une association sur l'enfance par exemple qui développe le parrainage. Elle développe à la fois le parrainage monde et le parrainage France, mais finalement ce sont deux services qui se font concurrence et qui se nuisent plutôt qu'elles ne cèdent. Et nous, c'est difficile de proposer quelque chose de convaincant à ce public. Et ensuite, donc rédiger le contenu du site. Là, je divise le traitement de texte parce que évidemment, une fois que le contenu est formalisé, une fois qu'on a une référence de contenu, on peut commencer à faire quelque chose. Et plus, les démarches que j'ai vues, en tout cas, c'était de commencer par le design ou de commencer par quelques fonctionnalités, chacun avec sa lunette. Mais finalement, le contenu reste quand même, de mon point de vue, la référence c'est la plus utile et la plus sûre. Donc le contenu, c'est d'aller dans le détail, c'est-à-dire si on prend en public par exemple de nouveaux arrivants sur un site internet, c'est qu'est-ce que c'est que ce site internet, à quoi il sert, comment est-ce qu'il fonctionne, quels sont les témoignages ou les exemples que je vais pouvoir trouver pour moi aussi pouvoir en profiter. Et donc l'exemple de J'accède, nous on a fait quand on a travaillé sur ce projet, on a mis à peu près au moins 8 mois à définir tout le contenu qu'on allait mettre dedans, et sachant que une semaine avant la sortie, on était encore à changer la page d'accueil quelque part. Et c'est simplement l'idée, que l'objectif de communication n'était pas assez défini. On commence à en prendre conscience, à le définir, mais tant qu'on n'a pas cette étape, on n'est pas sûr de nous et on navigue entre différentes propositions qui sont toutes bonnes ou pas. Cela dit, on a quand même essayé de faire bien les choses, c'est-à-dire au départ d'avoir une démarche de test, de faire tester à différents utilisateurs. Enfin, je reviendrai tout de suite dessus tout à l'heure. Ensuite, s'organiser en mode projet. Donc là, je pense que vous connaissez un peu tous la structure, mais évidemment, il y a donc le côté prestataire, le chef de projet, consultant, ergonome, graphiste, rédacteur, développeur, qui travaille en équipe, et côté client. Eh bien, il faudrait les structures équivalentes. Et bien souvent, surtout dans le monde associatif, c'est un monde organisé de façon verticale. Donc, il y a des chefs de département, des directeurs marketing, directeurs de communication, etc. Mais il n'y a pas de directeur du site internet. Donc, le projet n'est souvent pas considéré comme un projet stratégique. C'est un projet transversal, mais qui gêne tout le monde parce que chacun perd de son pouvoir. Donc pour réunir à la fois un directeur marketing, à la fois un directeur de communication, un directeur technique et puis les personnes qui gèrent les dons et les bénévoles, c'est toute une histoire. Donc même dans des grosses associations, ou peut-être même surtout dans les grosses associations, comme une grosse association, c'est très 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 difficile. Donc c'est aussi la condition du fait qu'au sein de notre équipe il y a un bon travail d'équipe. C'est qu'en face on est un interlocuteur, donc chef de projet, mais qui lui aussi est le même type d'organisation. Donc oui, comme je disais, c'est un projet stratégique. Évidemment, vous le savez sur tous, mais il y a un chef de projet, une personne par projet, et autant de sous-chefs de projet que de sous-projets. Il y a un certain nombre de procédures qu'on met en place, notamment en avant-vente, dans tout ce qui est planning, charge, livrable, le nombre d'itérations qu'on va autoriser au client. Et puis en réalisation, tout ce qui est compte rendu de réunion, suivi de production, avec des points flash intermédiaires. Sachant que le monde associatif, en tout cas celui avec lequel je travaille, il est, il a jamais beaucoup d'argent. Et pour, toute intervention d'une personne supplémentaire a un coût. Et là, c'est toujours des négociations impossibles. Donc c'est en fait une gestion de projet relativement légère qu'on propose, avec en général sans directeur de projet, mais on propose des mini-projets de 2, 3, 4 jours qui sont implémentés au fur et à mesure que le projet avance. Voilà. Organiser son espace de travail. Donc pour ce qui nous concerne, on a trouvé on a fait différentes méthodes, on a fait 50 méthodes sur la gestion du temps, la gestion des priorités et autres. Mais on a, la méthode Getting Things Done de David Allen nous a été utile. Donc c'est une méthode de gestion des actions, c'est-à-dire on va gérer des tâches, le principe donc c'est de faire sortir toutes les idées de sa tête, de les mettre par écrit dans des listes, en les plaçant à la fois en fonction d'un contexte et à la fois en fonction d'un projet, et de pouvoir donc se concentrer plus facilement sur les choses qu'il y a à faire. Alors, le principe, et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un espace de travail commun entre donc web designer, développeur, ergonome, qui est donc une sorte de inbox, de un seul dossier dans lequel on met tout ce qu'on n'a pas le temps de classer, et qu'on classera une fois qu'on aura tout réuni. Donc ça, enfin mine de rien, ce processus de trouver la bonne information par rapport au projet, ça a été au moins une journée. Donc pour tout réunir. Ensuite, d'avoir différents dossiers. Soit c'est un dossier de référence, c'est-à-dire un dossier dans lequel tout le monde sait quel type de document il va trouver et donc librement accessible. Un dossier donc des bonnes idées, c'est des bonnes idées parce qu'on a tous de bonnes idées, mais ce sera pour plus tard. Donc on ne les jette pas ou on ne frustre pas la personne avec ses bonnes idées, mais on les place dans un autre moment. Et puis donc il y a un dossier de poubelle. Ensuite, donc par rapport à ce qu'on trouve toujours dans ce contenu d'inbox, il y a soit c'est une action à faire très très rapidement. Ça peut être tout simplement rappeler une personne à telle heure par exemple, qu'on peut faire rapidement dans les 2 minutes. Soit c'est une action qui est composée de plusieurs actions et qui devient un projet. Un type de projet, c'est par exemple, préparer le déjeuner de demain midi, par exemple. Pour préparer le déjeuner de demain midi, il faut commencer par faire des courses. Et donc, première action, faire des courses. Ensuite, préparer la table, préparer les invitations, etc. Donc, ça rentre dans le mode projet. Et ensuite, si on prend la première des actions à réaliser et qu'on va déplacer, donc soit on va la faire, soit on va la déléguer, soit on va les mettre dans un agenda, dans les prochaines actions à réaliser, donc une sorte de to-do list, ou dire c'est en attente de que quelqu'un fasse quelque chose. Je pense que par rapport à la to-do list, il y a 50 façons d'écrire les to-do list, et nous, ce qui nous a aidé, c'est de mettre des verbes d'action, enfin d'avoir des actions précises, donc très très découpées, pour passer à l'action suivante. Par exemple, plutôt que de dire, Jean-Charles par exemple, ce serait appeler Jean-Charles sur tel point. Donc c'est cette précision qu'on a gagnée qu'on n'avait pas avant qui nous a permis de développer et de finalement de mieux travailler ensemble parce que chacun ayant la même structure sait où en est l'autre et ce qu'il attend. On est tous sur Mac donc on échange les dossiers par iDisk, ce qui permet donc d'avoir une seule structure, d'avoir tout rassemblé en un lieu. Et impliquer dès le départ les utilisateurs. Donc une fois que le contenu a été formalisé, on est passé à la création des maquettes graphiques, et puis après des interfaces HTML. avec une grille d'évaluation qu'on a faite, qui porte sur les différents points, donc tout ce qui concerne le graphisme, la navigation, le contenu du site. Enfin, il y a également, quand le site est un peu plus évolué, donc la technique, le relationnel, quel type de relationnel on va avoir avec l'utilisateur final. Ces critères sont découpés en sous-critères, par exemple le graphisme, la cohérence du graphisme avec l'image de marque, la qualité de l'iconographie, la lisibilité des typographies, les couleurs. Donc ces sous-critères sont évalués ici sur 20 et sont pondérés en fonction de l'importance que nous on aura décidé ou que l'association aura décidé pour son projet. Donc évidemment, par exemple, une association qui travaille dans le design mettra le graphisme en priorité, donc le pondérera de façon forte, tandis qu'une association pour la lutte contre l'autisme, le graphisme n'est pas important. Ce qui compte, ce sont les mots et les messages à faire passer. Donc la navigation, c'est de tout ce qui est noter l'organisation par besoin, la persistance de la navigation, la facilité pour trouver une information, le plan du site. Enfin, là, il y a zéro parce que c'est une maquette HTML, la page d'accueil et les présences de moteurs de recherche. Enfin, tout ça, c'est évidemment des listes extensibles. Et voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner cette liste complète. Donc ça, c'est l'implication dès le départ des utilisateurs. Et ensuite, c'est tout simplement donc faire les tests utilisateurs, sachant que quand il reste des débats stériles qui n'en finissent pas, l'utilisateur final pris au hasard, c'est finalement le juge de paix. Donc là, même si on est encore sur le site jackset.com, sur quelques discussions en se demandant qu'est-ce qu'on va mettre vraiment, qu'est-ce qu'on met sur la homepage et qu'est-ce qui fait qu'ils vont cliquer pour s'inscrire et pour inscrire des lieux, on est en train de donc on teste une version de mettre par exemple le contenu première visite en deuxième page, mais avec un gros bouton première visite. Et puis si on s'aperçoit que c'est pas suffisant, que les personnes ne comprennent pas le projet, on remettra tout le contenu sur cette première page. En tout cas, on est dans une le site est en ligne, mais on continue à faire évoluer le site. On a fait des évaluations utilisateurs donc au 2/3 de la réalisation du site. On a mis un système vidéo et un magnétophone pour enregistrer les commentaires par oral. Et ensuite, et maintenant que le site est en ligne, aujourd'hui, on recueille tout ce qui est remarque par email. Et évidemment, on regarde de très près les statistiques. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Est-ce que vous avez des remarques et des questions ?
Alors, est-ce que vous avez des questions ? Bien.
Bonjour, Jean-Rémy Duboc. J'ai une question par rapport au test utilisateur dont vous venez de parler. C'est vrai que ça, c'est quand même parfois, dans certaines agences, un sujet assez difficile à aborder parce que c'est pas mal de débats et tout ça, notamment autour du budget qui peut être alloué à ces tests. Et quand on voit que vous travaillez avec des associations, moi, je trouve ça très très bien que dans un contexte de clients associatifs, vous puissiez proposer aux clients et arriver à ce qu'ils acceptent d'avoir des tests utilisateurs. Comment vous faites pour convaincre ? Comment vous faites aussi pour mettre en place ces tests utilisateurs ? Et à peu près, quelle est la part du budget qui est allouée pour ces tests ?
Donc, par rapport, le disait tout à l'heure Denis Chen, en fait, il est difficile a priori de vendre ce type de prestations. Dans la mesure où on confond tests utilisateurs avec focus group. Donc tout de suite, on voit d'énormes budgets, des choses ingérables et qui rapidement prennent qui dépassent les budgets rapidement. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une première évaluation gratuite au niveau des 2/3 du projet, qui se fait donc justement, ils voient le système, ils voient le système de vidéo qui est tout simple, ils voient donc le système d'enregistrement et se rendent compte des bénéfices qu'ils retirent évidemment d'un test de quelqu'un qui n'est pas dans le coup. En fait, c'est ça. Et ensuite, on vend une prestation à 250 € pour faire tester une personne devant l'écran. Et c'est en général, vu l'apport que ça vu ce que ça leur apporte, c'est pas quelque chose qui ait du mal à passer. Enfin, jusqu'à présent. Maintenant, la seule chose, c'est davantage par rapport au temps, puisqu'évidemment, qui dit test, dit, va dire modification après, et c'est plus ça qui est difficile à gérer que le fait de vendre même des prestations de test.
Non, Marc, quelqu'un? Non, bah alors on va remercier Rémi fortement.